2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 10. Au nom de Jésus. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui. Au contraire, prends ta part de souffrance pour la bonne nouvelle, selon la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple. Non à cause des œuvres que nous avons accomplies, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps. Mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Amen. En suivant l'actualité politique française ces temps-ci, c'est incroyable de voir l'attitude de l'homme, vis-à-vis de ce qu'il appelle une famille, que ce soit une famille au foyer ou une famille politique. Quand on voit que celui qu'il soutenait tous commence à couler, tout doucement, chacun quitte le navire à cause d'une menace, d'une mise en examen. Tous les cadres ont pris leur distance. Non, non, je ne le connais plus, même si c'était leur champion. Je ne vais pas faire de commentaires en matière politique, mais ce qui est frappant dans l'histoire, c'est l'attitude de l'homme. C'est ce qui se passe aussi dans notre texte aujourd'hui. Paul est reconnaissant envers son fils spirituel, Timothée, qui est resté fidèle tout près de lui et qui a osé s'afficher aux côtés de Paul, qui n'était même pas mis en examen, mais il est en prison. Jusqu'au bout, il n'a pas quitté son maître. Il n'a même pas honte de s'afficher qu'il fait partie de ses disciples. Paul est en prison à cause de l'Évangile. Et alors ses disciples, quelques parties de ses disciples, ont pris leur distance vis-à-vis de lui. J'ai essayé de voir un peu, et il y a toute une liste dans 2 Timothée chapitre 4. Voici des disciples qui ont quitté Paul dès qu'il a eu un problème. Démas, Alexandre le forgeron, Phygèle, Hermogène. Tout cela ont quitté Paul. Mais heureusement, il y en a eu quelques poignées de disciples qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout, comme Timothée, Tite, Onésime. Il y avait aussi Luc qui était son médecin traitant, il faut le savoir. Paul avait un médecin traitant, même si c'était un grand Paul qui faisait des miracles, il avait un médecin qui s'occupait de lui. Et c'était Luc. Paul exhorte Timothée d'être fidèle à lui, non pas pour lui, mais pour la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui ne peut pas être emprisonnée par les chaînes de la prison. Cette bonne nouvelle qui ne pourrait pas être empêchée par les murs de la prison. D'ailleurs, il faut savoir, c'est en prison que Paul a écrit les quatre lettres très célèbres, la lettre pour Éphésiens, pour Philippiens, pour Colossiens et l'épître à Philémon. Vous voyez, en prison, Paul est toujours productif. En prison, il arrive encore à évangéliser ceux qui sont libres à l'extérieur. C'est incroyable. Celui qui est attaché par les chaînes, c'est lui qui exhorte ceux qui sont libres. Ça, c'est la force de l'Évangile. Malgré que Paul fût en prison, son zèle pour l'Évangile s'est encore multiplié par 10. Même chose aussi, si vous vous rappelez, pour Jean lorsqu'il était à Patmos, il était exilé. C'est là qu'il a eu la révélation pour le livre de l'Apocalypse, ce livre qui libère tous les chrétiens persécutés de son époque. C'est-à-dire qu'en même temps, ces hommes de Dieu ont eu la parole pour les autres, mais aussi c'est grâce à cela qu'ils ont pu tenir le coup. Et si vous regardez bien le texte que nous avons aujourd'hui, c'est fort étonnant, quelqu'un qui est en prison, qui écrit cet épître, le mot « grâce » et le mot « bonne nouvelle » revient plusieurs fois. Quelqu'un en prison arrive à dire « grâce, grâce ». Si nous on se dit « quelle nouvelle ?» Ah, la grâce de Dieu, parce qu'il y a le soleil, tout va bien, on est en bonne santé. Quelqu'un qui est en prison, qui dit « grâce, bonne nouvelle ». Il est fou, quoi. Pourtant, ce qui se passe n'est pas si joyeux que ça. Mais il appelle ça une grâce. Et oui, pour Paul, c'est encore un grand honneur pour lui de partager avec le Christ sa souffrance. Il dit, c'est une grâce pour moi d'être en prison avec lui. Et il appelle Timothée de souffrir avec lui aussi. Il ne demande pas à Timothée qu'on ait pitié de lui, ou même d'avoir une empathie pour lui, c'est-à-dire le fait de se mettre à sa place. Non, je ne te demande pas de pitié, je ne te demande pas d'empathie, mais ce que je te demande, de partager les derniers moments où je dois traverser le couloir de la mort. Viens, partage avec moi ce moment difficile, Timothée. Et justement, pour quelle raison? C'est parce que quand il va traverser le couloir de la mort, il va reprendre le relais. Quand il va disparaître, Timothée, tu vas continuer le combat et moi, je vais rejoindre le Seigneur. Les grands hommes de Dieu de la Bible, quel que soit leur charisme, quels que soient les dons qu'ils avaient, ces grands hommes de Dieu ne font que passer. Mais la parole de Dieu reste. La parole de Dieu demeure. Vous imaginez, qui pourrait remplacer Paul ? Qui ? Même pas ce Timothée-là. Mais Paul avait confiance que Dieu continuera son œuvre. Même Paul ne sera plus là. On croyait que Paul était irremplaçable. Mais il a tout fait pour que la bonne nouvelle soit toujours prêchée et annoncée. Et il confie cela avec confiance à son fils spirituel, Timothée. Mais voilà ce qu'il transmet à Timothée. Ce n'est pas juste le flambeau, mais tout ce qui vient avec, la charge d'annoncer l'évangile. Voilà, je te fais une passation, je te donne le relais, mais sache-le, avec ça, il y aura la joie, il y aura des larmes, il y aura des peines, il y aura des persécutions, il y aura des souffrances. Es-tu prêt à prendre le relais, mon fils ? Es-tu prêt pour tout ça? Non seulement pour la bonne nouvelle, c'est bien de dire que voilà, je suis un prédicateur de la bonne nouvelle, mais es-tu prêt à pleurer pour l'évangile? Es-tu prêt à avoir de la peine pour l'évangile? Es-tu prêt à être persécuté pour l'évangile? Es-tu prêt à souffrir pour l'évangile? Voilà l'héritage que Paul a laissé pour son fils. Alors c'est compréhensible, je crois, de voir les autres de prendre le large, quitter le navire, car non seulement ils ne veulent rien avoir avec un prisonnier, mais aussi ils n'en veulent pas de cette bonne nouvelle qui leur va créer des problèmes. C'est humain, non? C'est compréhensible. Moi aussi, je crois que j'aurais pu faire pareil. Je ne vais pas me mentir. Mais c'est un peu comme les héritages laissés par les parents, parfois c'est délicat. Car on hérite aussi des dettes et on ne veut pas de cela. La question qui se pose, quel est l'héritage que Paul laisse à son fils spirituel? Et quand on voit cet héritage, est-ce que ça vaut la peine de donner sa vie pour ça? La réponse se trouve au verset 9 et 10, voilà ce qu'il est dit. La parole de Dieu n'est pas enchaînée, c'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ce que Dieu a choisi, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. La parole ne pourrait jamais être enchaînée, comme je viens de dire tout à l'heure. Au contraire, cette parole, elle libère. Elle libère les gens pour la vie éternelle. Et ce qui est encore plus frappant, si nous lisons entre les lignes de ces versets-là, c'est cette sensation que Paul a eue, cette liberté qui brise les chaînes, cette liberté en lui. Paul, qui est face à son bourreau, écrit des lettres d'exhortation aux personnes qui sont à l'extérieur. Tout le monde connaît bien le verset Philippiens 4:4. « Réjouissez-vous dans le Seigneur !» Mais il était sur le point d'être exécuté à ce moment-là. « Réjouissez-vous dans le Seigneur !» Comme s'il voyait déjà quelque chose devant lui. Et dans cette phrase de Paul, nous pouvons réellement constater c'est ça une vraie conversion. Je dis cela parce que, avant de devenir apôtre de Jésus-Christ, il a persécuté le Christ par toutes ses forces. Et pour lui, dans les Actes des Apôtres, massacrer les chrétiens, tuer les chrétiens, n'était pas un crime ou un meurtre, c'était plutôt un culte voué à Dieu. Parce qu'il croyait que c'était des gens qui véhiculaient des fausses enseignements. Or ici, si nous lisons le verset 10, il dit « Pour que tout le monde obtienne le salut de Jésus-Christ, je suis prêt. » Pour que tout le monde obtienne le salut, je suis prêt à supporter ses souffrances, dit-il, et même la mort. C'est-à-dire, en d'autres termes, il donne sa vie, il donne son corps en sacrifice comme une sorte d'offrande, une offrande à Dieu pour l'Église. Ma vie est une offrande à Dieu. C'est ça une conversion. Avant, il tuait les gens pour servir Dieu, maintenant il donne sa vie pour les gens. Ce n'est pas une compensation à Dieu pour le mal qu'il a fait. Non, ce n'est pas une œuvre de pénitence. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse pénitence. Mais pour Paul, sa vie n'était plus si importante à ses yeux. Ce qui passait avant tout pour lui, c'est le salut des autres. Voilà qui est le plus important. Et alors, il était prêt à donner sa vie si c'était nécessaire. Oui, ce n'est pas une obligation, mais si le cas se présentait, ou si l'enjeu allait jusque-là, Paul était prêt à mourir pour les autres. Soyons clairs, frères et sœurs en Christ, Dieu ne nous demande pas qu'on lui donne notre vie ou qu'on se sacrifie comme les apôtres l'ont fait, mais à partir de cette histoire de Paul, à nous de réfléchir sur notre engagement pour les autres. Jusqu'où irions-nous pour le salut de notre prochain? Là, c'est là la question. C'est la question que Jésus m'a posée. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour les autres? Pas pour moi, ton Dieu. Moi, j'ai plus besoin de ton sacrifice parce que mon fils est déjà mort sur la croix. Mais pour les autres, jusqu'où es-tu prêt? C'est là l'enjeu. Et c'est ça le niveau de la maturité spirituelle que Dieu veut que nous vivions. Il faut dépasser cet enfant spirituel. Voilà ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. « C'est lui qui a fait les dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres les prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. » De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Et écoutez la suite, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire servir son prochain. Voilà être un chrétien mûr dans la foi. C'est plus prier le Seigneur pour soi, mais pour les autres. Et alors là, dans une paroisse ou dans une communauté, il existe trois sortes de chrétiens. Et à nous de voir dans quelle catégorie sommes-nous. Je vais vous énumérer. La première catégorie, ceux qui servent Dieu vraiment avec passion, avec amour, avec zèle, mais pour espérer atteindre la vie éternelle. Il y a ce groupe-là. Je vais tout faire pour plaire à Dieu. Comme ça, il va m'ouvrir la porte du ciel. Est-ce que tu appartiens à ce groupe-là ? Le deuxième groupe, c'est le chrétien qui sert Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, pour espérer une bénédiction. Ah, comme ça, tu me béniras dans mon travail, tu me béniras dans mes comptes en banque, tu me béniras mes enfants. Est-ce que tu appartiens à ce groupe-là ? Et enfin, la troisième et dernière catégorie, c'est le chrétien qui sert avec toutes ses forces son prochain, afin qu'il puisse être à leur tour aussi à la connaissance du Seigneur, et qui est prêt pour tout, je dis bien qui est prêt pour tout, pour atteindre cet objectif. Donc il ne vit plus pour lui, il vit pour les autres. Voilà la maturité spirituelle en question, chers frères et sœurs. Il faut franchir ce pas-là. Il faut avancer. Si nous voulons suivre le Christ, rappelez-vous, les disciples de Jean-Baptiste, nous voulons te suivre, où est-ce que tu habites ? Et qu'est-ce que Jésus a répondu ? Venez, vous allez voir. Et le Fils de l'homme, lui, il n'a pas de lieu de repos. Le Fils de l'homme est là pour servir. Pour l'apôtre Paul, son emprisonnement est loin d'être la fin de l'Évangile. Oui, peut-être la fin de son ministère, mais ce n'est qu'après que Paul a pu démocratiser, si je peux dire ça comme ça, la mission. C'est grâce à la mort de Paul que Timothée a pu avancer, que Tite est devenu pasteur, et que les autres comme Marc, rappelez-vous Marc, celui-là, il avait un problème avec Paul. Et à un certain moment, si vous vous rappelez, dans l'évangile à Gethsémané, il y avait un monsieur qui s'est enfui au moment où Jésus a été capturé. Et il a dû s'enfuir. Je vais prendre votre micro, je crois. Et Marc, c'était Marc, ce monsieur qui a dû s'enfuir tout nu. Lisez les évangiles. Il y avait un gars qui fuyait. Il a oublié même ses vêtements, ses marques. Et celui-là, il est devenu, après la mort de Paul, un grand serviteur de Dieu. Luc aussi, un pharmacien, qui ne fait pas partie des disciples, mais qui fait partie des piliers de l'Église. Grâce à la disparition de Paul, tous ces gens-là se sont levés. Et tous ces gens-là ont pu continuer l'œuvre de Dieu. Et nous voilà, nous avons l'évangile de Marc. Nous avons l'évangile de Luc. C'est voilà l'œuvre de Dieu. Donc au contraire, et c'est encore de plus en plus répandu à travers le monde lors de la disparition de Paul. Oui, la parole de Dieu ne dépend pas du prédicateur. La parole de Dieu, elle est suffisante. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est la parole qui fait lever les évangélistes. Ce n'est pas les évangélistes qui font la parole, c'est la parole qui touche les gens et qui fait lever les gens et devenir pasteur, devenir évangéliste, devenir des prédicateurs, et non le contraire. C'est la parole qui est en premier. Et donc faisons confiance au Seigneur qu'il va encore faire lever des serviteurs pour annoncer sa parole. Qui sait, peut-être parmi nous. Amen.